Je vous le disais au sommaire, on va retrouver notre chroniqueur astronomie, Michel Favré, qui est en expédition dans le pic du Midi. Allez Michel, bonjour.
Bonjour Sandrine.
Ça va bien?
Ah, ça va très bien, il fait beau.
Ah, vous avez de la chance. Alors on va voyager un petit peu avec vous Michel, si vous le voulez bien. Alors vous êtes arrivé ce matin, je crois, hein?
Oui, oui, l'émission, on est ici donc pour une mission d'une semaine sur un des télescopes de l'observatoire qui s'appelle le T60, hein, c'est un télescope de 60 cm, hein, c'est ça que veut dire son nom. Et en fait, les missions sont d'une semaine, donc on monte le lundi et jusqu'au dimanche. Et on est monté par la toute première cabine le matin, parce que comme on transporte pas mal de matériel, on peut pas voyager en même temps que les touristes, ce serait pas pratique. Donc on monte en fait avec le personnel de l'observatoire, du restaurant, etc. Et qui eux aussi montent du matériel, quoi.
Alors vous êtes où exactement alors là?
Ah ben là je suis dans donc le téléphone où vous m'appelez, c'est dans le local technique, si on peut dire, du télescope. En face de moi, j'ai une petite fenêtre par laquelle je vois un magnifique panorama sur toute la chaîne des Pyrénées. D'ailleurs, je viens de t'envoyer une photo là. Donc vous pourrez la mettre en ligne et vous verrez à peu près la même chose que moi.
Oui, on reliera ça sur notre Facebook, hein,
voilà.
Sur le radio. Hein.
Et donc, pour situer, c'est dans le département des Hautes-Pyrénées. Hein, et pour monter au pic du Midi, on part d'un téléphérique depuis la station de ski de la Mongie, qui se trouve sur la route du col du Tourmalet, hein, que les cyclistes connaissent bien, puisque le Tour de France passe assez souvent par ici. Et donc, le pic, on est au sommet, là, à 2876 mètres, enfin, certains disent 77, mais enfin, voilà, à presque 2009, on va dire.
Alors, qu'est-ce qu'on voit de votre local, alors?
Ah ben, de mon local, on voit la chaîne avec, très très loin dans le fond, un des pics les plus hauts, c'est le Vignemal. Ce qu'on voit très bien juste en face de nous, c'est le cirque de Gavarnie, et dans lequel il y a une espèce de falaise avec une espèce de créneau, là, qu'on appelle la brèche de Roland, parce que d'après la légende, ce serait une trace laissée par son épée quand il a voulu la casser après la bataille de Roncevaux, son épée Durandal. Voilà. Bon, vu la taille, ça devait être balèze, hein, comme épée.
Non, merci de nous faire visualiser votre vue. Alors, quels sont les motifs de votre expédition, Michel Favré?
Alors, le télescope T60, on en parlera peut-être un peu plus de la mission mercredi, si on peut à nouveau établir une liaison. L'idée, c'est que c'est un télescope qui est très petit, qui serait pas très rentable à utiliser par les astronomes professionnels. Et il est mis à disposition d'une association. Donc il suffit d'adhérer, c'est une association d'astronomes, on va dire, il suffit d'adhérer à cette association et on peut monter en mission ici, faire des images, utiliser le télescope, qui bien sûr, pour des professionnels, est un tout petit télescope, mais pour des amateurs comme nous, c'est un très gros télescope, hein, 60 cm de diamètre, je crois qu'il pèse dans les 400 kg, enfin c'est une grosse bête, avec une grosse caméra, avec toute l'informatique qui va bien, donc on peut faire des choses bien plus sérieuses que dans notre petit observatoire du côté de Périgueux.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet observatoire donc qui est situé sur le pic du Midi, hein?
Oui, alors le pic du Midi, ça a toujours été un site qui a un petit peu attiré la science, hein. Il y a eu des pionniers qui sont venus dès le 18e, je crois. C'est en réalité dans les années 1870 que commence vraiment l'observation d'un observatoire ici. Et au départ, c'était plutôt pour la météorologie et je crois un peu la botanique. Je crois qu'il y avait un jardin botanique d'altitude. Et puis petit à petit, c'est venu à l'astronomie. Le premier télescope de 50 cm, donc vous voyez, il est même plus petit que le nôtre, mais c'était à l'époque un des plus grands du monde, hein, c'est difficile à croire aujourd'hui, a été installé en 1907. Et rien qu'avec la qualité de l'observation qu'on a ici, hein, c'est un site de très très grande qualité au niveau du ciel. On a pu par exemple faire des très belles observations de Mars qui ont permis de voir que les canaux que certains croyaient voir sur Mars n'existaient pas en réalité. C'est au pic du Midi que ça a été démontré. Donc il y avait une coupole au départ de 8 mètres de diamètre, ensuite une lunette était installée dedans. L'observatoire s'est développé petit à petit avec des nouveaux bâtiments, des nouvelles terrasses. Dans les années 30, il y a eu toute une campagne qui continue un peu aujourd'hui, on en parlera peut-être tout à l'heure, d'observation du Soleil, avec en particulier un astronome qui s'appelait Bernard Liot, qui a inventé un dispositif qu'on appelle un coronographe. Donc c'est un dispositif optique qu'on monte sur le télescope et qui permet de cacher le soleil, d'occulter le soleil pour faire comme une éclipse artificielle. Et c'est comme ça qu'on peut étudier la couronne solaire, disons le bord du soleil. Et il a fait des films qui sont encore aujourd'hui remarquables avec des énormes éruptions solaires, ce qu'on appelle des protubérances, qui sont vraiment très spectaculaires, quoi. Le télescope qu'on va utiliser, nous, le T60, il a été monté ici dans les années 1946. Il appartenait à quelqu'un, donc j'en reparlerai peut-être mercredi, Monsieur Gentilly, qui l'a offert en remerciement à l'observatoire pour service rendu, je vous raconterai ça. En 52, il y a eu un téléphérique, parce que tout ce que je vous raconte là, il faut imaginer que les gens montaient à pied, Tout le matériel était monté à dos d'homme. C'était vraiment une vie de montagnard. D'ailleurs, dans le musée, il y a un petit clip qui rappelle tout ça avec des photos, des films de l'époque. C'est assez incroyable. La vie était vraiment très, très difficile.
Comme ouais, faut rappeler que vous êtes à 2876 mètres quand même. Hein.
Voilà, c'est de la haute montagne. Hein, donc c'était comme la vie dans un refuge de montagne. Il n'est pas rare qu'il neige en été ici. Hein. Il faut bien se rendre compte de ça. Hein. Nous, on a des équipements comme pour aller faire du ski en hiver. Hein. La nuit, si on veut travailler dans la coupole qui est forcément ouverte, hein, si on veut voir le ciel, ou si on monte sur les terrasses, ces jours-ci, je pense qu'on affronte des deux degrés, peut-être un degré, quelque chose comme ça. Si ça descend un petit peu, il gèlera. Hein.
Mais ce qu'on va rappeler à l'auditeur quand même que vous allez travailler de nuit, hein, bien sûr, hein, pour observer
Le ciel. L'astronomie, c'est plutôt la nuit, parce qu'en la journée, il y a une étoile qu'on peut observer, elle s'appelle le Soleil. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre.
Bien sûr.
Voilà. Alors, une autre étape importante dans la vie de l'observatoire, c'était en 1963, parce que la NASA a financé un télescope ici. C'était un des sites où on avait les meilleures images donc du Soleil, mais aussi de la Lune et des planètes. Et ils ont financé un télescope de 1 mètre de diamètre pour prendre des très belles images de la Lune à forte résolution. Et d'ailleurs, dans le musée, on a encore la collection de toutes les photos qui couvrent toute la surface de la Lune. Et c'est grâce à ces photos qui ont été faites en France, hein, à Cocorico, qu'on a pu choisir, enfin que la NASA a choisi les sites d'atterrissage d'Apollo, des premiers hommes sur la Lune, donc des sites qui leur paraissaient les moins dangereux, pas trop escarpés, vous voyez, pas trop de rochers, pas trop de cratères, etc. Et en 72, un gros instrument est venu s'installer là, un télescope de 2 mètres. Alors il est très spectaculaire parce qu'il est au-dessus, hein, sa coupole est au-dessus d'une tour de 28 mètres de haut. Il est vraiment perché comme ça en hauteur. Et il est utilisé, alors on l'appelle TBL, Télescope Bernard Liot, en hommage donc au fameux astronome qui a permis d'inventer le coronographe. Et il est utilisé surtout pour l'étude des étoiles et en particulier leur champ magnétique avec un instrument très bizarre hein, qui s'appelle Narval. Alors le vrai nom c'est un spectropolarimètre et ça permet de connaître le champ magnétique ou de connaître l'état des taches, hein, comme on les voit des fois sur le Soleil, mais sur des étoiles qui sont à des centaines ou des milliers d'années-lumière de nous. Alors c'était un peu, le summum hein, dans l'utilisation du site. Et ce qui s'est passé c'est que dans les années 90, les sites européens ont de plus en plus fermé, tout simplement à cause de la construction de très grands télescopes. Vous savez qu'il y a des très grands télescopes au Chili, à Hawaï, il y a même des télescopes dans l'espace, hein, comme Hubble, et ces instruments font de meilleures images, et sont plus performants, et particulièrement ceux qui sont au sol sont dans des régions où il n'y a pas beaucoup de pollution lumineuse. Dans l'Atacama, dans le Chili, c'est un désert, quoi. Il n'y a aucune construction à des centaines de kilomètres autour. Alors qu'ici, oui, en Europe, hein, plus généralement, il y a tellement de construction, on éclaire de plus en plus les villes et le ciel est de moins en moins bonne qualité.
Alors, même dans le pic du midi encore?
Non. Alors, pour, disons, certaines observations, c'est pas gênant. Hein, ceux qui observent le soleil, c'est pas très grave parce qu'on n'allume pas la lumière la journée et de toute façon, le soleil est beaucoup plus brillant. Pour ceux qui font de la radioastronomie, hein, donc dans les grandes longueurs d'onde, hein, avec des espèces de grandes antennes radar, hein, mais ce sont en fait des télescopes, c'est pas trop gênant non plus. C'est très gênant dans le domaine optique où on veut faire des photos, disons, à la lumière qu'on a l'habitude de voir avec nos yeux. Alors, le pic du Midi, il est un peu préservé parce qu'il est en altitude, il est éloigné de la vallée. Mais depuis plusieurs années, il y a un projet qui est en construction de réserve de ciel noir. C'est-à-dire qu'il y a toute une démarche qui est faite pour que toutes les communes de la région, disons les autorités qui sont concernées par ces problèmes d'éclairage, y compris d'ailleurs en Espagne, hein, parce qu'on voit très très bien la pollution lumineuse de l'Espagne depuis ici, fassent un effort de réduction de la lumière, ou en tout cas, vous voyez, de mettre des lampadaires qui gênent moins. On peut avoir des techniques de lampadaires qui éclairent que vers le bas, voilà, et pas ça, du tout vers le haut, et c'est beaucoup moins gênant. Pour tout dire, à la limite, les meilleures situations d'observation au site, hein, c'est pas la première fois que je viens, au pic du Midi, c'est quand il y a un peu de nuages. Parce que souvent, nous, on est au-dessus des nuages, on appelle ça la mer de nuages, et comme il y a la mer de nuages qui nous sépare de la vallée, ben, la pollution lumineuse, elle est bloquée. Et on a un ciel encore meilleur quand il y a un petit peu des nuages en contrebas.
D'accord.
Donc, ce que je vous racontais là, le site a failli fermer hein, dans les années 90. Et finalement, c'est grâce au développement d'autres activités sur le site, en particulier du tourisme, que ça a permis que le site continue, puisque finalement c'est l'afflux de touristes qui viennent admirer le panorama ou qui viennent pour des soirées. Hein. De temps en temps, il y a des soirées organisées. Je crois qu'il y en a une cette semaine d'ailleurs, puisque ce sera le maximum des perséides, hein, les étoiles filantes qu'on voit en été. Donc tout ce, disons, tout ce business, si je peux l'appeler comme ça, touristique, a permis de financer, de rendre rentable la remontée mécanique, hein, c'est des très grands téléphériques, tout ce qui est l'hébergement, la restauration, et finalement, je dirais, tout le support à l'activité scientifique de l'observatoire est amorti au travers de l'ouverture au public, quoi.
Donc c'est un site qui est visitable, alors ?
C'est visitable. Alors la plupart du temps, c'est visitable la journée. Il y a quelques soirées de temps en temps dans l'année pour des événements spéciaux, comme je crois que ce sera la nuit de mercredi à jeudi, le maximum des perséides, où je pense qu'il va monter plusieurs centaines de personnes, mais juste pour la soirée, pour le début de l'observation de la nuit, et ils vont redescendre, je sais pas, vers minuit et demi, une heure du matin, en général ça se passe à peu près comme ça. Et il y a quelques rares privilégiés qui peuvent passer la nuit, il y a 19 places hein, chaque nuit, donc avec un animateur qui leur montre le ciel avec un grand télescope, etc. Ils visitent un petit peu aussi. C'est les seuls touristes qui peuvent visiter vraiment les coupoles où se trouvent les vrais télescopes. Depuis les terrasses en journée, comme aujourd'hui, d'ailleurs ça se verra sur les photos que j'ai envoyées, le seul vrai télescope encore utilisé à l'observatoire qu'on peut voir, c'est le nôtre, c'est le T60.
Alors on va justement en parler un petit peu de ces instruments que vous exploitez actuellement.
Alors le T60 c'est le plus petit, hein, comme j'ai dit il est opéré par des amateurs, donc on en reparlera peut-être mercredi parce qu'on aura fait deux nuits d'observation, je pourrais vous dire exactement ce qu'on a fait avec.
Ah mais on va vous suivre hein, Michel Favret hein, toute la semaine. Nous on est dans la région bordelaise, on a envie de voyager un petit peu, donc on suivra ça. Ouais.
Il y a le télescope de Hamet qui fait surtout, pas que ça, mais qui est connu pour sa très bonne qualité en observation planétaire, donc on fait des images superbes donc de la Lune, mais aussi de Jupiter, Saturne, Uranus, tout ça c'est fantastique. Il y a une coupole dont j'ai pas parlé, c'est la coupole Roche, elle est un peu bizarre parce qu'à cause du vent ici, on n'a pas toujours des coupoles qui s'ouvrent complètement comme on a l'habitude de les voir, mais plutôt qui laissent juste un petit trou, vous voyez, pour que le vent s'engouffre pas dans la coupole. Donc celle-là, elle ressemble un peu à une tourelle de char, et en fait, elle contient une lunette pour l'observation aussi de la surface du Soleil, c'est la coupole Roche, elle s'appelle. Il y a le TBL dont j'ai parlé de 2 mètres, hein, le plus grand télescope du site, et d'ailleurs c'est le plus grand télescope sur le territoire français, hein, de métropole. Et il y a un autre télescope dont j'ai pas parlé, qu'on appelle le CORO entre nous, hein, c'est un coronographe, donc normalement on devrait l'appeler CLIMSO, hein, c'est l'acronyme sous lequel il est connu. Alors c'est assez curieux parce que c'est bien un télescope de l'observatoire, mais il a été financé par Mécénat, et ce sont aussi des amateurs qui viennent opérer ce télescope toute l'année, en permanence, il y a des observateurs pour surveiller le ciel. Ils font partie d'une association qui s'appelle les OA, les observateurs associés. Alors ils ont une petite différence par rapport à nous, c'est qu'eux travaillent le jour et dorment la nuit. Quoi. C'est les seuls astronomes du site qui sont complètement déphasés par rapport aux autres.
Oui, bien sûr. Justement, on va un petit peu reparler. Alors déjà, peut-être pas dire, allez, on revient un petit peu, même si vous voulez pas tout dévoiler de l'objet de votre expédition. Qu'est-ce que vous souhaitez voir pendant cette semaine?
C'est une mission, c'est pas une expédition. Si, quand on voit le chargement qu'on a monté dans la cabine ce matin,
on peut parler d'expédition aussi.
Alors, on va faire des choses. Ce qu'on fait, nous, beaucoup, c'est de la photométrie, c'est-à-dire on mesure la luminosité d'objets. Donc ça peut être intéressant sur des objets dont la lumière varie, comme certaines étoiles, ça peut être intéressant sur des astéroïdes hein, qui nous réfléchissent la lumière du Soleil, et en tournant, la lumière est plus tout à fait la même. Et si on mesure comme ça régulièrement la lumière pendant une longue période, les astronomes professionnels, à partir de ces relevés, arrivent à reconstituer en 3 dimensions, par exemple, un astéroïde. Nous, on a décidé cette année, parce qu'on avait commencé un petit peu l'année dernière et ça a un peu échoué, mais c'était la première fois, donc cette année, on va s'y prendre un peu mieux. On va essayer de trouver des nouveaux astéroïdes. Parce que il y a beaucoup d'amateurs qui cherchent à trouver de nouveaux astéroïdes, hein, qui se promènent un petit peu partout dans le système solaire, et ils le font en général avec des instruments plus petits que le T60. Donc, ceux qui sont bien lumineux d'astéroïdes, disons, il y a pas mal de monde qui essaye de les trouver, et qui les trouve en général. Et nous, comme on a une catégorie de télescopes quand même nettement plus performants, là, au pic, on a la chance de tomber là sur des... On pourrait, nous, détecter des astéroïdes que les amateurs peuvent pas détecter. Par contre, bizarrement, on va se retrouver en concurrence avec des professionnels qui font la même chose. Et trouver un astéroïde, ça se joue des fois à une minute, hein, parce qu'il faut envoyer la découverte à un centre mondial, hein, qui se trouve en Californie. Et c'est le premier qui déclare qu'il est le père, si je peux dire, enfin disons l'inventeur de l'astéroïde. Et c'est un grand privilège parce que grâce à ça, on peut lui donner un nom. On peut définir son nom.
Donc on aura peut-être une astéroïde qui s'appellera Michel Favret ?
Non, on n'a pas le droit de donner son nom. Ah. On donne un nom à l'astéroïde, on propose un nom, hein, parce que c'est décidé par l'Union Astronomique Internationale après. On peut proposer un nom, mais la tradition veut qu'on ne propose pas son propre nom. C'est pour les comètes que ça marche comme ça. Un découvreur de comètes donne son nom à la comète, parce que depuis Halley, c'est comme ça, depuis la comète de Halley. Pour les astéroïdes, on propose en général le nom de quelqu'un d'autre. Et alors bien sûr, on peut s'arranger entre deux découvreurs d'astéroïdes, c'est-à-dire moi je donne votre nom, vous donnez le mien, vous voyez.
Oui.
Mais nous, on n'avait pas prévu de faire ça parce qu'on avait déjà un nom en tête l'année dernière. En fait, il se trouve qu'il y a quelques années, il y a un membre de notre club qui est décédé, qui était quelqu'un de très bien dans le club, et on pensait donner son nom.
Donc on espère que vous trouviez cet astéroïde avant les autres, alors du coup, hein,
voilà.
C'est ça, hein.
Ben, c'est pas un particulier, si vous voulez. C'est un peu comme si on allait à la pêche, hein.
Oui,
c'est-à-dire
bien sûr,
on va
oui.
faire des photos de régions du ciel, et le truc, c'est de refaire la même photo à quelques minutes d'intervalle, par exemple 5-10 minutes, plusieurs fois dans la nuit, et si on commence à voir des choses qui bougent sur la photo, ça peut être que des objets du système solaire, donc des planètes, on sait bien où elles sont, des astéroïdes ou des comètes. Et comme on a des cartes électroniques avec des répertoires de milliers d'astéroïdes, on sait tous ceux qui sont connus. Donc à partir du moment où on en trouve un et que ce n'est pas un qu'on connaît, c'est là qu'il faut se dépêcher de faire une déclaration en disant « peut-être bien que j'ai trouvé un astéroïde et si ça marche, il faut le confirmer le lendemain ou le surlendemain en essayant d'observer à nouveau son passage un petit peu plus loin dans le ciel, disons. Et si les trajectoires se confirment et que c'est bien un astéroïde, ben voilà, on a fait sa découverte. C'est aussi simple que ça.
Et quel enfin,
ça a l'air simple comme ça, mais...
Oui, bien sûr.
Voilà.
Et c'est quoi
l'intérêt ? Sinon, on va essayer d'observer aussi la fameuse comète 67P Chury, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, puisqu'il y a la mission Rosetta.
Bien sûr, puis on entend parler en ce moment. Hein.
Et l'ESA, l'Agence Spatiale Internationale, demande aussi à faire des observations depuis le sol. Parce que comme ça permettrait de comment je pourrais dire, corréler, vous voyez, ce que la sonde va observer tout près de la comète et ce que nous on peut voir de loin. Par exemple, si la sonde va voir une activité plus intense au niveau du dégazage, hein, dont j'ai déjà parlé de la comète quand elle se réchauffe en s'approchant du soleil, bah peut-être que depuis le sol on verra sa chevelure, hein, la boule un peu floue autour de la comète, on appelle ça la chevelure, puis derrière la queue, on verra peut-être cet effet se produire sur la chevelure et la queue, et ça permettrait de mieux comparer et de mieux comprendre ce qui se passe, quoi.
Donc il y a un travail, hein, entre les professionnels et les amateurs, finalement.
En astronomie, c'est un des domaines scientifiques où il y a une très forte collaboration depuis toujours, hein, entre les astronomes professionnels et les amateurs. Les professionnels ne peuvent pas tout faire parce qu'il y a des observations qu'il faut faire très souvent, donc ça coûterait très très cher si on les faisait avec des grands télescopes, et si on peut les faire avec des plus petits, ben autant les faire avec des plus petits. Il y a certaines observations, j'ai parlé d'astéroïdes, par exemple les astéroïdes passent devant des étoiles, et ça permet de connaître leur forme, c'est un peu compliqué, j'expliquerai ça peut-être un jour. Il faudrait le faire depuis plein d'endroits différents sur la Terre, donc il n'y a pas des observatoires partout, donc c'est bien que des amateurs depuis chez eux le fassent, pour qu'on multiplie comme ça les mesures. Et il y a toujours eu comme ça une coopération astronome, ou même un truc tout bête, hein, il y a des phénomènes qui sont très courts, j'avais dû en parler une fois dans une chronique, ce printemps on a travaillé nous sur ce qu'on appelle les FEMU, les phénomènes mutuels des satellites de Jupiter, donc là c'est fini, hein, on pourra pas le faire au T60, ce sont des phénomènes qui typiquement durent 10 minutes, donc il suffit qu'il y ait un nuage à ce moment-là et c'est cuit, quoi. On peut pas faire l'observation. Donc en multipliant comme ça les observateurs un petit peu partout, ben, il y a des chances que certains arrivent à faire l'observation alors que plein d'autres ne pourront pas. Et on a plus de chances de ne pas rater certains phénomènes. Donc il y a une forte coopération professionnelle amateur. Dans notre jargon, on appelle ça la coopération pro-am. Astronome professionnel, astronome amateur. Pro-am.
Michel Favré, merci, hein, on arrive à la fin de cette chronique. Alors juste, vous allez nous dévoiler un petit peu votre emploi du temps ce soir, parce que quand est-ce que vous dormez alors ?
Là. Alors, la première journée, c'est la pire de toutes, parce qu'on est monté tôt ce matin, comme il fait beau, on n'a pas tellement envie d'aller se coucher pour faire la sieste, donc on a tendance à faire du tourisme un peu comme les autres sur les terrasses, dans le musée, d'aller voir les collègues dans les autres coupoles, et si on se couche pas, ben... Ce soir, on va préparer le télescope pour la nuit d'observation et comme tous les prochains jours, on va passer la nuit à observer. Le matin, il y a un lever de soleil qui peut être magnifique au pic du midi, donc on attend le lever de soleil. Donc le temps que le soleil se lève, c'est vers 7h30 qu'on va aller se coucher. Donc on s'est levé ce matin tous vers 6h30, on va se coucher demain matin vers 7h30. La première journée, elle est mortelle, on fait 24h sans se coucher. Les autres nuits, après, ben, en principe, on dort jusqu'en milieu d'après-midi, 14-15h. Ceux qui arrivent, moi j'aurais tendance à me réveiller plus tôt et ça vous arrange parce que comme ça on pourra se téléphoner à nouveau. Mais donc on dort pendant que les touristes arrivent le matin sur le pic. L'après-midi, donc on fait une espèce de casse-croûte, hein, on va pas manger une choucroute à 14h quand on se réveille, vous doutez bien, donc on fait plutôt une espèce de brunch dans le local. L'après-midi, ben éventuellement on retravaille un peu sur les images de la veille où on prépare et où on prépare le télescope pour le soir, parce que parfois on change de caméra, tout ça, il y a du travail à faire sur le télescope. Le soir arrive, on va dîner. Après le dîner, on a le coucher du soleil. Ça aussi, c'est un moment grandiose aussi au pic. Et puis, on attaque notre nuit d'observation jusqu'à 7h30 le lendemain matin.
Michel Favret, bah, merci hein, pour cette chronique et puis bon courage jusqu'à demain matin 7h. Et puis de toute façon, on va suivre, hein, pour les auditeurs, vous allez suivre un petit peu la mission et non l'expédition, mais ça ressemble un petit peu, on ne sait pas, hein, vu les conditions, la mission de Michel Favret toute la semaine et puis avec des photos, bien sûr, sur Facebook qui va nous envoyer. Hein. Des couchers de soleil aussi, ça serait sympa, hein, Michel.
Oui, on va essayer. Bah, si on a beaucoup de chance, on pourra peut-être voir le fameux rayon vert. Depuis le pic du Midi, on voit parfois le rayon vert, je vous expliquerai ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Et puis c'est sympa de nous dire bon courage parce qu'en fait un peu la mission c'est dur hein, en général à la fin de la semaine on est un peu sur les rotules. Mais aux astronomes
passion,
on dit astronomes on dit surtout bon ciel.
Ah oui bien sûr, bon ciel Michel Favret et puis à toute votre équipe alors.
Merci bien, au revoir.
Au revoir, merci.